Du livre des Cantiques, chapitre 2, versets 8 à 14. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à une gazelle, à un jeune faon. Voilà qu'il se tient derrière notre mur, il guette par la fenêtre, il épie par le treillis. Mon bien-aimé élève la voix, il me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en, car voilà l'hiver passé, c'en est fini des pluies, elles ont disparu. Sur notre terre, les fleurs se montrent, la saison vient des gais refrains, le recoulement de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, viens-t'en. Ma colombe cachée au creux des rochers, en des retraites escarpées, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante, ton visage. Nous étions restés ce matin assis auprès du Seigneur, assis auprès du bien-aimé. Ce bien-aimé qui donc s'est approché de nous dans le désir de nous rencontrer, dans le désir de nous parler, de nous dévoiler les secrets de son cœur, de nous faire entrer dans une compréhension plus approfondie de son mystère, de ce cœur qu'il, cette flamme d'amour qui est en lui. Et dans le cantique des cantiques, et ce passage en particulier, on voit qu'elle entend, la bien-aimée entend l'approche, la voix du bien-aimé qui l'invite à se lever, à passer d'un état, peut-être donc elle était couchée, peut-être endormie, peut-être donc il y a l'hiver qui est là et qui saisit tout, et puis ce bien-aimé qui approche et par le son de sa voix l'invite à la vie, l'invite à se lever, l'invite à partir à sa suite. Et la fin du verset 14 dit ceci, « Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et charmante ton visage. » Dans le livre du Cantique des Cantiques, ce thème du réveil, de l'amour, traverse tout cet ouvrage, tout le Cantique. On sent qu'il y a un réveil à vivre, et un réveil qui n'est pas simplement une fois, deux fois, mais c'est presque un chemin de réveil ou un chemin d'éveil qui est proposé à la bien-aimée pour que de plus en plus elle s'éveille à l'amour de son bien-aimé et cherche à le rejoindre, cherche à vivre de cet amour et dans cet amour. Et vous voyez combien, petit à petit, en fait, sans le dire, mais nous parlions peut-être, nous avons parlé de l'oraison comme un moment, une technique, et très vite on s'est mis à parler de l'amour, parce que évidemment c'est un moment où l'amitié, l'amour du Seigneur est au cœur de ce moment, de cette relation. Et donc voilà, on n'est plus dans une technique humaine, mais on est dans un élan du cœur, dans une vie du cœur avec quelqu'un, dans une relation, dans une qualité de relation. Et tout se joue finalement dans cette qualité de relation. D'ailleurs, un théologien disait que la sainteté consiste dans la qualité de relation. Évidemment, la vie trinitaire, les personnes en Dieu dans le mystère trinitaire se distinguent par leur relation. Et on peut dire que nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous sommes invités eh bien, à vivre une qualité de relation avec Dieu, avec nos frères, avec nous-mêmes, avec toute la création, de plus en plus affinée. Et nous y reviendrons, mais l'oraison, l'exercice de l'oraison, ce temps que nous prenons avec Dieu, eh bien, va creuser en nous, va affiner en nous cette qualité de relation, cette qualité de présence aux autres, à soi-même, à Dieu, aux choses. Autrement dit, l'amour va, l'Esprit Saint, la vie de l'Esprit en nous, va purifier notre cœur, l'affiner, va l'embellir, et c'est un des thèmes aussi qu'on retrouve dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée évolue au cours de cet ouvrage et elle devient de plus en plus belle. Elle est chantée par le bien-aimé, sa beauté est décrite à plusieurs reprises et chaque fois il trouve de nouveaux mots pour dire sa beauté, comme si ce réveil de l'amour dans le cœur et la vie de la bien-aimée l'embellissait de plus en plus, pacifiait son cœur, la rendait plus forte. À un moment donné, elle sera dit, elle est, qui est celle-ci qui monte comme l'aurore redoutables comme des bataillons. Donc on se dit, waouh, qu'est-ce qui lui arrive à cette bien-aimée qui se réveille à l'amour pour être aussi redoutable, hein? Donc on a une sorte de ligne de fond dans cet ouvrage, dans cet écrit, où il y a une évolution. Plus l'amour se réveille dans le cœur de la bien-aimée, plus elle s'embellit, plus elle est transformée, et plus elle ressemble dans l'amour, et plus ils sont leur complicité, leur communion est forte. Mais il y a des étapes, hein, dans cet ouvrage. On voit bien qu'il y a des moments où ils sont ensemble, où, comme nous disions ce matin, elle savoure sa présence. À son nom désiré, je me suis assise. Et puis les moments où il est absent, il lui échappe. Elle n'arrive plus à le. Elle ne sait plus. Et donc, elle va le chercher. Par exemple, au chapitre 3, versets 1 et 2, elle va dire : Sur ma couche, la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Alors en hébreu, ce n'est pas la nuit, au singulier, c'est au pluriel. Je trouve que c'est plus adapté, parce qu'on le cherche souvent quand même. Mais voilà. Donc à la fois il nous attire, on désire, et justement le fait de se mettre à sa recherche, c'est ça le réveil de l'amour. On part à sa recherche. Et la bien-aimée, on va la suivre un petit peu, là elle part à sa recherche. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je me lèverai donc et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Donc vous l'imaginez, hein, c'est quelque chose de très concret. Elle est chez elle, tout ça. Elle prend des risques quand même. Bon, une jeune fille qui part dans la nuit, bon, ça se fait pas. Donc elle prend des risques pour partir à sa recherche. Elle rencontre les gardes. Les gardes m'ont rencontré, ceux qui font la ronde dans la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi, ne le lâcherai point, que je ne l'ai fait entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Alors, certains traducteurs disent, ce n'est pas une question, mais c'est une affirmation. Elle rencontre les gardes et elle leur dit, vous savez-vous où il est, mon bien-aimé ? Alors, les commentateurs vont dire, ces gardes, ce n'est pas simplement les gardes qui surveillent les remparts, mais c'est aussi les gardiens de la loi. Ah, alors là, on se dit, bon, eux sont gardiens de la loi, connaissent la loi. Et alors, elle dit, vous savez où il est, mon bien-aimé. Et le texte poursuit, à peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Comme si, pour trouver le bien-aimé, il fallait dépasser la loi. Il fallait aller plus loin que l'observance simple de la loi. C'est-à-dire qu'elle sent, on peut le commenter ainsi, évidemment, si nous cherchons dans l'oraison le bien-aimé, le Seigneur, si nous le cherchons, eh bien c'est dans l'amour que nous le trouverons. C'est là qu'il... C'est en dépassant les simples observances de la loi, mais que nous le trouvons. Et c'est là, vers là qu'elle nous entraîne. Et tout de suite après, au verset 5 de ce chapitre 3, il nous est dit, ça c'est le bien-aimé qui parle, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. » Donc on se dit, bon, alors quoi ? Elle l'a trouvé, et puis là, elle n'est pas, elle est encore endormie. Bon, c'est là qu'on voit que ce texte veut nous dire qu'il y a comme des réveils successifs. Voilà. Il y a des prises de conscience de plus en plus fortes, hein, peut-être comme si le Seigneur, petit à petit, nous ouvrait les yeux, nous ouvrait les oreilles, et c'est bien le propre du Messie, hein, annoncé, qu'il ouvre les yeux des aveugles, qu'il débouche les oreilles des sourds, voilà, et les entraîne à marcher. Pour illustrer cela, pour que ce soit trop abstrait, dans l'évangile de Marc, si on suit cet évangile, il y a beaucoup de déplacements. Jésus se déplace beaucoup. Et donc, on imagine les apôtres qui le suivent. Et à un moment donné, il nous est dit qu'il y a deux miracles qui sont mis en relief. C'est un aveugle qui va retrouver la vue et un sourd qui va retrouver l'audition. Et tout de suite après, et en même temps... À travers tout ça, l'évangéliste nous dit que les apôtres ne comprennent rien. Hein, vraiment, ils sont un peu épais. Enfin, comme on dit ici, hein, si vous voulez, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe et à comprendre qui est Jésus. Et juste après ces deux miracles, il y a la question que Jésus va poser, pour vous qui suivez. Et alors Pierre, vous donnez la réponse, Pierre, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ben, heureux es-tu. Hein. Et il commença, le texte nous dit, il commença à leur enseigner qu'à partir de ce moment-là, il faut que le Messie souffrit sa passion, soit rejeté des anciens, etc., et que le troisième jour, il ressuscite. Et Pierre, qui est tout heureux d'avoir trouvé la bonne réponse, lui dit, mais non, Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus, passe derrière moi, Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, à la fois, on voit qu'il a compris qui était Jésus, puis en même temps, il n'arrive pas à le suivre quand il ne comprend pas, il ne le suit pas, quand Jésus lui révèle la manière dont le Messie va sauver. Et donc, on sent bien, et vous allez voir où je veux vous amener, on sent bien que les apôtres sont dans un chemin d'éveil, on pourrait dire, où ils apprennent à voir, ils apprennent à entendre qui est Jésus et ce vers quoi il les entraîne. Alors il y a un très joli passage où je voudrais qu'on s'arrête un tout petit peu. C'est dans l'évangile de Marc toujours. Vous connaissez ce passage. Nous sommes à la fin de la, juste avant la passion, à la fin de l'évangile de Marc. Jésus prend le temps. Le texte nous dit qu'il s'assoit. Chaque fois que Jésus s'assoit, c'est que vraiment, ben, il prend le temps de regarder. Nous sommes au chapitre 12, verset 41 et suivant. S'étant assis face au trésor, voilà, il regarde la foule mettre de la petite monnaie dans le trésor et beaucoup de riches en mettaient abondamment. Survint une veuve pauvre qui y mit 2 piécettes, soit 1 quart d'as. Alors il appela à lui ses disciples et leur dit, en vérité je vous le dis, cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor, car tous ont mis de leur superflu, mais elle, de son indigence, a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus poursuit son enseignement. On arrive au terme de la vie publique et là il prend le temps de s'asseoir. Il est tellement touché par le geste de cette femme qu'il appelle les apôtres et il leur dit, voilà, ça c'est beau. C'est vers cela que je vous entraîne. C'est cela que je veux que vous voyez, qui a du prix à mes yeux. C'est cette qualité de cœur, cette qualité d'offrande. Cette femme, on ne sait pas ce qu'elle a dit au Seigneur. Dans ce geste, il y a tout son peut-être sa tristesse de veuve, son désir de retrouver son époux perdu, mais aussi le désir que Dieu vienne, que son règne arrive, qu'enfin le peuple de Dieu soit libéré du joug du Romain, enfin que le Messie se manifeste. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'il y a comme poids de son humanité, c'est toute son humanité et son désir de salut, son désir de salut qui est comme rassemblé dans ce geste. Et je pourrais vous demander si vous aviez à vous, voilà, s'il y avait un geste dans lequel vous vouliez vous, quel serait le geste que vous poseriez où vous êtes, où vous vous dites tout entière ou tout entier. C'est de voir. Peut-être il y en a plusieurs, certainement d'ailleurs. Ça peut être de danse, on va y revenir. Mais un geste qui vous exprime et qui devant Dieu dit, bien, me voici Seigneur. Dans le rituel, je ne sais pas comment vous le vivez chez les Moniales, mais la semaine dernière, peut-être, la sœur a dit, voilà, me voici Seigneur. Il y a tout un dialogue, il y a certainement des gestes qui expriment, eh bien, le cœur qui cherche à se donner, qui exprime, hein, à travers des gestes. Et donc, ça, je trouve que c'est fondamental pour notre vie de prière et d'oraison, à la fois Jésus qui recueille le cœur, qui s'exprime, et qui apprend aux apôtres qui sont toujours les yeux un peu, voilà, qui sont fascinés par. Il leur montre ce qui est invisible, mais il leur montre la qualité de cœur. La qualité, elle passe inaperçue, cette personne à la voix, sauf Jésus. Et ça, je trouve que c'est le cœur de notre vie chrétienne. Il nous apprend à voir ce qui est beau et ce qui a du prix. Bien sûr, il faut. C'est, autrement dit, si on reprend l'image du vin de ce matin, le vin qu'elle sert dans son cœur, la qualité de vin, il est infiniment savoureux et Jésus le goûte ce vin en quelque sorte. Alors je vous pose une question, quel vin vous servez à boire aux gens qui vous rencontrent ? Est-ce que vous leur servez de la piquette, du vinaigre, un vin aigre, un vin qui n'a pas de goût, de l'eau plate? Qu'est-ce que vous servez à boire, vos amis? Autrement dit, aux gens que vous rencontrez, qu'est-ce que vous leur donnez de vous-même? Qu'est-ce que vous leur servez à boire? Est-ce que c'est mélangé, il y a du fiel? Et on a toujours des trucs au moment donné. Ou est-ce que c'est savoureux? C'est une espèce de. Une qualité de cœur. On rencontre des personnes comme ça. Je me souviens une. Mais c'est une chanson de Brassens. Tiens, peut-être vous avez reconnu que mon accent m'a trahi. Je suis de la France. Il y a une chanson de Brassens à Sète, du côté dans le sud-est de la France. Il y a la ville de Brassens. Il y a un musée qui lui est dédié. Et je me souviens que dans une de ces musées, on met des écouteurs pour écouter. Et il y a une chanson, je ne sais plus laquelle. Il y a une chanson où il raconte qu'il est accueilli par. J'ai tout oublié sauf l'image. Elle leur sert un pain, mais ce pain avait la saveur d'un festin, parce que ben, il était c'est l'Auvergnat peut-être. Et il y en a une où il parle d'une jeune femme qui. Alors ça c'est l'Auvergnat. Voilà, mais c'est ça. Et puis il y en a une autre aussi où il est accueilli, à l'époque quand il est à Paris où il n'a pas d'argent, il est accueilli par des amis, et qui sont presque aussi pauvres que lui, mais un peu moins, et donc il lui partage du pain, et ce pain a la saveur parce qu'il est enveloppé du sourire, de la tendresse de celle qu'il accueille. Bon. Et ça m'a touché, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que nous servons à manger et à boire aux gens? Alors, c'est plus que ce soit trois fois rien, mais si c'est enveloppé et porté par l'amour, ben, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Qu'est-ce que nous servons à boire? Bon. On pourrait. Donc, c'est ça. Et Jésus nous dit, voilà, à cette veuve, et peut-être qu'aussi, il voit dans le geste cette femme qui voulait voir, elle se donne tout entière, peut-être qu'il voit déjà, ben, il dit, ça y est, c'est à mon tour de me donner. Comme elle. C'est à mon tour. Mais lui aussi va se donner jusqu'au bout. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il va se livrer entre nous-mêmes. Donc, quelque part, cette femme, elle a un geste profondément eucharistique. Elle se livre, elle se donne. Et elle prie. Finalement, sa prière, c'est le don d'elle-même. C'est pas simplement, en même temps, quelques pièces. On sait bien le prix qu'il faut pour entretenir un bâtiment. Voilà, chauffer tout ça, donc c'est pas la monnaie, mais c'est le poids de son humanité dans son offrande qui a du prix devant Dieu. Et Saint Jean, voilà pourquoi les saints, et je pense au saint du Carmel en particulier, parce que je connais un petit peu plus, et Jean de la Croix en particulier, va encourager les personnes qu'il rencontre et ses lecteurs, à chercher cette qualité d'amour. Parce que c'est cela qui est efficace. Enfin, il cherche pas l'efficacité, vous comprenez bien. Mais parce qu'il est. Parce que l'amour, finalement, ne peut nous laisser en repos, et tant qu'il n'est pas tout à fait épanoui, nous sommes insatisfaits, d'une certaine manière. Il y a une blessure, et cette blessure, il faut que nous devenions blessure, en quelque sorte. Et parce que c'est cette blessure qui va mettre en mouvement et qui va permettre de donner la vie. Donc, cette petite veuve-là, elle est toute mignonne, là, enfin, elle est toute belle, je veux dire, de l'amour, même si elle passe inaperçue. Si elle est toute... Mais aux yeux du Seigneur, elle a du prix. Alors, vous voyez que ce temps d'oraison, nous allons essayer de l'habiter dans un climat d'amour. Et là... on pourrait dire que finalement, c'est pas quelque chose de figé du tout. Il y a on pourrait dire qu'on va presque, c'est presque une danse, la danse de l'âme, on pourrait dire. C'est l'âme, la vie de l'âme qui devant Dieu va s'épancher. Et on n'est pas là pour dans un exercice où il faut se tenir. Enfin, c'est pour ça que je vous ai donné quelques questions. Est-ce qu'on est en train de comme on veut maintenir une note, où on n'est pas là en train de vouloir maintenir de la concentration sur une pensée, on est là pour chercher à vivre dans l'amour un moment de gratuité devant Dieu. Et là, allons-y avec notre cœur. On y va à fond les manettes. C'est comme quand vous avez un jeu de cartes. Vous avez un jeu de cartes. Vous jouez avec les cartes que vous avez. Des fois vous bluffez, mais vous jouez avec les cartes que vous avez en main. Et quand on va vers Dieu, vous dites, ben voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'amour fait de ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce que l'amour ferait dans ma situation? Comment l'amour peut transformer ce que je vis en lui-même? Et là, on va voir comment l'amour, en fait, est infiniment souple et riche et libre pour se servir de tout. Il se sert de tout. Dans le cantique, nous venons de le voir, la bien-aimée est invitée à se lever et à entrer, à passer de la mort à la vie, d'une certaine manière. Elle est invitée à faire entendre sa voix, car sa voix est douce et charmante son visage. Donc, on peut se dire que là, il y a toute la liturgie, en quelque sorte. Il y a tout le chant, la voix, toute la réponse, toutes les variations du sentiment et les nuances de notre cœur. Pour illustrer cela, je m'inspire d'un peu. Je reviens à l'auteur que j'ai cité ce matin, François Cheng, qui parle de la peinture en Chine. Il a beaucoup commenté des peintures chinoises. Et vous savez, à partir des peintures qu'il commente, il commente des peintres qui ont peint avec de l'encre de Chine. Donc il y a une couleur, c'est noir, et puis un pinceau. Bon, et tout est là. Alors, il dit, voilà, je vais vous lire son passage, et il me semble, bon, c'est une image pour exprimer ce que je voudrais vous dire. Et donc, il y a l'idée d'un souffle qui va mouvoir le peintre, et qui va ainsi se laisser, grâce à sa technique, mais aussi grâce à son ouverture à ce souffle, qui va se laisser bien conduire. Et il va transcrire sur sa toile eh bien, ce qu'il a contemplé. À l'image du souffle, le trait de pinceau tel qu'il est pratiqué par l'artiste chinois, tout en constituant une unité, contient en germe de multiples virtualités. Il est complétude en soi et promesse de métamorphose. Car le trait tracé au pinceau imbibé d'encre n'est pas une simple ligne destinée seulement à cerner le contour. Le pinceau étant fait de poils résistants mais souples, ramenés vers le centre pour former une fine pointe, il permet mille nuances, depuis les tracés les plus subtils, les plus ténus, jusqu'aux empreintes appuyées et massives. Le trait fondamental qui en résulte, composé d'attaques, de poussées, de finales, se remarque par ses reliefs. Il est doué de vie, telle une cellule vivante. Tous les autres traits en dérivent. Jouant du poignet vide et des doigts mobiles, celui qui trace le trait et les traits imprime sur papier ou sur soi les moindres frémissements de sa sensibilité. Par ses pleins et ses déliés, sa rigueur et sa grâce, ses emphases et ses envolées, le trait en sa forme originelle, aussi bien qu'en ses métamorphoses, implique volume et mouvement, teint et rythme. Pareil au souffle dont il se veut une traduction visuelle, il est donc à sa manière l'un et le multiple, l'origine et la transformation. Bon, on capte un peu. Hein. On voit qu'il y a donc cette souplesse du pinceau, du poignet, de l'artiste qui est saisi par le souffle, eh bien va, alors que là on a un pinceau et un machin, traduire tous les sentiments, voilà, les émotions, voilà. Et ça, je trouve que c'est l'oraison. Le souffle, c'est l'esprit d'amour qui vient réveiller un peu, là, qui est un peu endormi, notre âme un peu rigide, bon, un peu anxieuse, un peu angoissée, un peu repliée, un peu retatinée, un peu pleine de choses, hein, un cœur compliqué et malade, dira Isaïe. Et bien c'est cet esprit d'amour qui vient mettre le feu aux poudres, enfin vient réveiller, vient embellir, vient assouplir, vient ouvrir des chemins, comme on disait ce matin. L'âme, notre âme, elle est vivante, mais plus elle est mue par l'Esprit de Dieu, plus elle vibre, hein, et elle peut s'exprimer. Et là, il me semble que... Alors, ce qui veut dire qu'il y a des moments donnés où, vous le sentez bien, l'âme, on va dire des choses, on va exprimer. Puis, à un moment donné, on va se taire, on va être avec lui. Et puis, il ne faut pas chercher à faire le vide, il faut chercher à aimer. C'est pas... Qu'est-ce que l'amour fait de ce qu'elle vit? Et là, c'est ouvert, d'une certaine manière. C'est très ouvert. Ce matin, on a entendu une partie de Isaïe 58. Vous pourriez reprendre ce texte d'Isaïe 58, il est absolument magnifique. Et il me semble, et je vais le mettre en rapport avec Zachée, mais il me semble qu'il y a là ce réveil de l'amour dans l'âme qui est invité par Dieu à aimer le prochain. Et si vous relisez ce texte d'Isaïe, vous voyez que la vie circule de nouveau. Dieu est proche. L'âme, le soleil se lève, il y a le réveil de l'âme. Je me dis, c'est fantastique. À partir du moment où l'amour entre dans le cœur, la vie circule, l'hiver est passé. Bon. Si on met ça en rapport avec Zachée, par exemple, dans l'évangile de Luc, on voit bien, on connaît très bien ce passage, je ne fais que le nommer, le traverser rapidement. Je trouve qu'il y a une illustration là, au chapitre 19, hein, de Saint-Luc, chapitre 19. Vous connaissez Zachée qui est de petite taille, qui se tient sur le chef de publicain qui était riche. Il ne pouvait voir Jésus à cause de sa petite taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite, il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi était un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On voit bien aussi avec la figure de Lévi. Hein. Donc, on imagine ces hommes, on n'est pas à la caresse, là on est dans la voie, on amasse des choses, pour se sécuriser, pour avoir l'impression d'exister, et puis on s'en fiche finalement de l'autre, on profite, et on ramène, puis là on se bloque, il y a quelque chose qui est bloqué dans cette histoire. Et ce matin, l'évangéliste nous disait que Lévi était assis, voilà, il est assis, il est bloqué, mais pas assis à celui qui écoute, il est assis à celui qui ne bouge plus. Et Jésus entre, et il donne il ouvre son cœur. Et là, Zachée est tellement touché que quelque chose se réveille. Et on sent qu'il veut vivre à ce niveau. Je vais faire, si j'extorquais quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Je vais donner la moitié de vie aux pauvres. Il est tellement touché qu'il veut vivre à ce niveau d'amour qu'il vient de recevoir, en quelque sorte. Ça le met en mouvement et la vie se met à circuler. Il utilise ses biens pour faire du bien. Et il me semble qu'il y a là, si vous voulez, l'espèce d'articulation avec l'oraison où on va goûter cet amour de Dieu, et puis la vie concrète où on se dit, bien, voyons, vivons de cet amour reçu, et là, la vie circule. Là, elle est en train elle nous entraîne dans son élan. Alors, on peut se dire donc l'importance de cette présence à Dieu, cette qualité de présence à Dieu. Et là, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Hein, c'est à vous aussi de faire le chemin, de vous dire qu'est-ce que l'amour ferait dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais de l'amour là. Alors, on peut, pour donner un, quand même un exemple, mais c'est plus une invitation encore. Quand tout va bien, quand on est à la force de ses facultés, quand on n'est pas malade ou trop indisposé, voilà, on se dit finalement tout va très bien, ça, on gère. Mais voilà, quand la maladie ou la fatigue ou la faiblesse du corps, la vieillesse, enfin, on sent que nos facultés partent en vrille, enfin, on a du mal à se concentrer, que ça part à volo, que voilà, c'est un peu dur, quoi. Il me semble qu'alors, on quitte la tête. La tête, elle est, mais il faut descendre au niveau du cœur. Et il me semble que là, il y a, c'est important parce qu'alors, on peut dire ceci, parce que dans l'oraison, l'être, la personne, hein, s'expose sans se cacher, se défendre, se protéger, se justifier. Elle s'offre dans la nudité, dans la vérité. Son cœur se dévoile, se révèle, s'exprime. Et le cœur, finalement, c'est ce qu'il y a de plus tendre, de plus délicat, de plus personnel, de plus intime. Et ce dévoilement est encore plus beau, me semble-t-il, quand cet être, quand cette âme se sait imparfaite. Car alors, ce qu'elle montre d'elle-même, c'est son impuissance, ce sont ses fragilités, ce sont ses... Voilà, c'est duplicité, c'est contradiction. Et elle ne peut en tirer orgueil, ni fierté, ni gloire. Elle ne peut tirer orgueil de cette faiblesse. Et donc elle se dévoile dans l'humilité. Le geste est si beau alors, orné de toutes ses qualités. Le don de soi, l'offrande de soi, c'est si beau. Ce geste paraît de ses sentiments. Et on pourrait l'écouter, hein, elle pourrait nous dire ceci. Je me donne à toi, je me donne au Seigneur, dans la vérité de mon être, avec tout ce que je suis, tout ce que je sais de moi, sans défense. Ce qui est à moi est à toi. Ce que tu fais de moi, je ne m'en défendrai pas. Je suis vulnérable devant toi, vivant. Non pas comme une proie inerte et pétrifiée, mais je me donne à toi dans l'acte même de la vie qui me porte et qui vient. Je me donne à toi dans la vie qui m'est donnée, sans rien retenir ni défendre. Je me donne à toi dans la vie même que je reçois. La vie qui m'est donnée, je te la donne comme je la reçois. Et cette vie que je te donne, je veux croire qu'elle t'est agréable, qu'elle a du prix à tes yeux, qu'elle fait ta joie. Je veux croire que tu aimes, que je me donne ainsi, et j'ose espérer, croire et désirer que tu fasses de même. Ou que le don que tu m'as fait, que tu me fais, se situe à ce niveau de vulnérabilité, de vérité, de sincérité, de totalité. Je t'accueille dans ce que tu es. Ma peur, ma plus grande peur, c'est que je ne rencontre que le vide, que je ne te donne pas tout, que tu ne te donnes pas tout entier pour toujours dans la pleine lumière. Oui, on passe au cœur qui sent, qui bat. Le cœur qui bat, pour qui il bat notre cœur? Et qu'est-ce qui le fait battre? Vous voyez, cette âme qui éprouve instant après instant la vie qui est là, est-ce que cette vie, elle la garde pour elle ou est-ce qu'elle la donne? À partir du moment où on est descendu au fond du cœur, eh bien après tout le reste peut se déployer. Tout le reste va se déployer dans nos activités. Mais l'oraison nous aide à descendre dans ce fond du cœur où on est vraiment soi-même, où on aspire. Et la vie qui est là, est-ce que nous la donnons? Et je trouve qu'il me semble, hein, que là, nous retrouvons profondément l'Eucharistie. Hein. L'Eucharistie est cette offrande du Christ, de Jésus au Père pour le salut. Ceci est mon corps, ceci est mon sein. Il se livre. Et sur la croix, eh bien, il est offrande de lui dans la souffrance, dans la faiblesse, dans l'impossible de parler. L'amour a l'offre. Et dès lors, on peut dire, si on poursuit, plus rien n'est obstacle à l'union d'amour avec Dieu. Et on pense à ce que dit saint Paul, à l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 35, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. grâce à celui qui nous a aimés. Car l'union partant du plus profond de notre être, de notre cœur, rejoint tous les moments et les états de notre vie. Dès lors, nous vivons en vérité ce que la prière du Deutéronome disait, chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur, tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Dès lors, par l'amour, nous rejoignons le cœur de l'Église et on peut dire que vie d'oraison, vie dans l'amour, vie dans l'Esprit Saint, vie filiale, vie eucharistique ne forment qu'une seule réalité, une vie toute passée en Dieu. Ce que le Cantique des Cantiques dit comme ça, exprime par « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». Expression métaphorique pour dire « Je serai ton peuple et tu seras, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple ». C'est bien là une des finalités de la venue du Fils, que de nous réapprendre à aimer. Il est venu nous donner d'aimer avec son propre cœur, afin que notre cœur devienne comme le sien. Il ne veut pas faire de nous des super-héros, mais des amoureux, et des amoureux capables d'actes héroïques, c'est-à-dire des actes d'amour aussi bien dans la force que dans la faiblesse. C'est là, dans la faiblesse, que l'amour est le plus pur, le plus vrai, quand il n'y a plus que l'amour, quand il n'y a plus en nous qu'un cœur qui bat. Et ce travail du cœur, donc le bien-aimé, hein, auquel nous invite Jésus, qui est le serviteur de l'amour, je fais une petite parenthèse, Thérèse d'Avila, quand elle dit « Commencer à faire oraison, c'est devenir serviteur de l'amour, servante de l'amour. » Et on se dit, voilà. Il est le serviteur de l'amour qui nous apprend à aimer, qui nous apprend la simplicité de l'amour. Il nous apprend à choisir l'amour jusqu'au fond des ténèbres, au fond de la nuit et des tentations. Et en ce sens, ce que nous entendrons demain, le passage de Jésus au désert, et puis jusqu'au bout quand Jésus affronte le démon et les tentations, et il ouvre un chemin dans le désert. C'est-à-dire qu'il nous montre par ses choix de confiance, ses choix d'amour, il ouvre un chemin. Et il nous dit, ben, si vous prenez ce chemin de l'amour, vous allez traverser le désert. Et ce désert où il y avait la mort, il va y avoir de la vie. Parce que l'amour l'a investi. Parce que l'Esprit Saint l'a investi. Et donc, je pense à une poésie de la petite Thérèse, quand elle écrit une poésie sur Jeanne d'Arc. Elle contemple, elle est fascinée par la figure de Jeanne d'Arc, et elle dit ceci, là où tu es la plus glorieuse et la plus grande et la plus belle, ce n'est pas, tu l'es aussi, mais quand tu prends d'assaut, quand tu es sur ton cheval avec voilà, ton baudrier, enfin, que tu affrontes l'adversaire pour libérer le peuple de France, elle dit c'est quand tu es au fond de ton cachot, lié, toute seule, dans l'obscurité, enfin, voilà, et que tu restes fidèle, et que tu continues à aimer et à choisir ton bien-aimé. Et là, tu es la plus belle. C'est à pleurer tellement c'est... On connaît tous enfin, des moments d'obscurité, mais que là, on arrive à se dire, Seigneur, je continue à te suivre. Je reste fidèle, je te suis. Ce chemin d'amour que tu me traces, je continue. Je pose un choix. C'est un chemin de choix. Bon, un chemin de croix, mais c'est un chemin de choix. Et quelque part, les apôtres ne sont pas arrivés à le suivre dans sa passion, dans l'obscurité. Ils n'y sont pas arrivés. Bon, il leur faudra la Pentecôte. Bon. Et nous plus, ben, on y a du mal. Mais Jésus nous apprend à choisir l'amour. Et évidemment, la porte, elle est étroite. Que voulez-vous? Elle est toute petite. Il faut passer, quoi. Il faut... Mais vous voyez, la porte étroite, parmi tous les multiples possibles que nous avons, eh bien, est-ce que c'est ce choix de l'amour que nous prenons? Et si on prend ce chemin-là, eh bien, c'est un chemin de vie, un chemin de fécondité, un chemin de grâce. Et ça, je trouve que c'est... Et on devient amour. Enfin, ce lieu qui était une impasse, qui était un non-sens, c'est... Et en ce sens, je pense au texte que Jean-Paul II a écrit je crois que c'est le 11 février 84 ou 88, sur le sens de la souffrance chrétienne, qui est un texte extraordinaire, enfin magnifique, il est extrêmement clair, mais c'est du pain, c'est vraiment c'est très très nourrissant, et il montre comment Jésus entre dans l'océan de la souffrance humaine, et que par tout ce qu'il fait, il cherche à y répondre, hein, c'est la question du mal, hein, par ses guérisons, sa prédication, mais qu'il est allé jusqu'au fond du problème, qu'aujourd'hui on veut évacuer, hélas, en allant chercher l'homme et en allant le rétablir dans la communion avec Dieu à travers voilà, sa mort et sa résurrection. Il est allé jusqu'au bout et il révèle tout à la fois par la croix la puissance du mal et jusqu'où va le refus de Dieu et de l'amour, et en même temps il révèle jusqu'où va son amour, parce que ben, voilà, il le traverse tout ça. Et du coup, le texte nous dit que la souffrance l'amour a investi la souffrance et en a fait quelque chose de nouveau. Et nous qui l'accueillons, eh bien, nous dit que Dieu élève notre propre souffrance à celle du Christ et lui donne une fécondité. Il lui donne déjà de goûter à la résurrection, à la force de la résurrection, à la vie. Et ça, ben, c'est dans l'accueil du Christ, dans les profondeurs de notre chemin, parfois de nos obscurités, de nos épreuves. Si cet amour vient au fond, eh bien, il transforme. Ce travail du cœur est un travail fécond qui transforme tout désert en jardin de grâce et de beauté. Le serviteur, si nous le regardons, si nous écoutons son cœur, si nous marchons à sa suite, nous apprendra une science savoureuse, unique et cachée. Une sagesse de vie. Il nous apprendra à aimer dans la faiblesse, la fatigue et le rien, et à servir dans la faiblesse, la fatigue et le rien. Il nous apprendra à nous offrir dans cette faiblesse, dans cette vulnérabilité, dans la vie qui s'étiole, l'horizon qui se rétrécit, l'avenir devenu impossible. Il nous apprendra à offrir notre néant, à offrir notre cœur qui bat encore, ultime témoin d'une vie passée. Il nous apprendra à offrir nos facultés en bataille, notre souffle trop court, ou l'enfant appelé en nous. Il nous apprendra à offrir l'obscurité qui enveloppe et se dresse devant Dieu, et nous attire comme vers l'abîme, vers l'enfer. Dieu était là, je ne le savais pas, disait Jacob. Or Dieu est là, dans ce murmure, dans ce souffle court qui cherche son chemin pour se donner jusqu'au bout. Alors, nous rejoignons le Fils dans son offrande, son sacrifice, son amour consumant. Venant épouser toute notre humanité, il nous apprendra à son exemple et à sa suite à choisir l'amour coup après coup, à choisir la vie, le bien, la fidélité, à choisir l'humilité, la douceur, l'offrande, le don, à choisir la confiance, la tendresse, le pardon, le don de la vie, à transformer le mal en bien, à redonner la vie, à entrer dans la paternité de Dieu qui crée du bien, à engendrer avec lui. Il nous apprendra à choisir en tout et toujours le chemin de vie, à passer par la porte étroite, et comme le dit l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 1, à prendre la voie de l'amour. Voilà. Dans les multiples éléments qui nous arrivent, c'est ça, je crois que l'horizon, elle nous aide à ça. Quand nous sommes, nous cherchons, voyons ce qui nous arrive, tout ça. Quel est le chemin, la voie de l'amour? Voie VOX, mais voie VOIE aussi. Et apprendre la force du pas à poser. Le Fils donne la vie. Il reçoit la mort, mais il donne la vie. Il donne la vie à la mort, si on veut jouer sur les mots. Il transforme de l'intérieur de la loi du talion en loi d'amour sans mesure. Il crée du nouveau. Voyez-vous, il n'y a plus de solitude, plus d'impasse, plus d'échec absolu, car l'amour nous jette hors de nous-mêmes et nous plonge en Dieu, nous unissant à lui dans le souffle de l'esprit. Et ça, me semble-t-il, c'est la victoire de l'amour, la victoire des petits. Voilà. Cette veuve qui est... On se dit, elle a échoué, sa vie, c'est un échec, on peut se dire. Elle est toute pauvre, elle a tout perdu, elle a plus quelques piécettes, on se dit, c'est un échec. Non, non. elle a trouvé la voie du ciel. Et ça, c'est la victoire de Dieu. En vous, la victoire de l'homme, quand il se laisse traverser par cette victoire, c'est le mystère pascal, qui nous est ainsi, qui devient notre mystère. Pour moi, vivre, c'est le Christ, on l'a entendu ce matin, comme dira saint Paul. Alors, voilà, on va prendre, accueillir c'est pour ça que, on y revient, mais l'oraison, il ne faut pas la commencer sans invoquer l'Esprit Saint, sans invoquer cet esprit d'amour qui vient nous inspirer, justement. Pour terminer, quelques aspects, comme en reprise de tout cela. C'est vraiment un lieu pédagogique, cette oraison. Un lieu pédagogique de qualité de présence et de relation, on l'a dit. Et donc on peut dire que l'oraison, c'est prendre le risque de l'autre, avec un grand A. C'est prendre un chemin inconnu, un chemin vers l'autre. Ce n'est pas partir dans le vide, mais c'est s'en remettre à quelqu'un, lui faire confiance et se laisser conduire. D'ailleurs, dans le cantique, toujours du cantique, après toutes les pérégrinations qui arrivent à cette bien-aimée, on termine presque au chapitre 8, verset 5, par cette image, qui est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé. Et toutes les pérégrinations du désert, et là elle remonte appuyée. C'est-à-dire qu'elle consent elle s'appuie. Donc elle se laisse conduire, elle fait confiance. Et donc du coup, lui peut la soutenir, peut la guider, peut l'inspirer. Elle remonte appuyée. Je trouve que c'est, voilà. Est-ce que nous sommes appuyés dans la foi sur le Seigneur? Est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous croyons que son amour, eh bien, est-ce qu'on y croit qu'il est fidèle? Et que malgré la nuit, eh bien il est là. Et donc l'oraison, c'est faire confiance à lui. L'oraison est un espace pour l'autre, un espace que je lui laisse. Nous l'avons dit, l'oraison, c'est prendre le chemin vers le cœur, vers son propre cœur et le cœur du Seigneur, et c'est remonter à la source. C'est apprendre à écouter, à entendre le cœur de Dieu se révéler à travers l'humanité de Jésus, tous ses faits et gestes, nous l'avons dit. Et donc l'oraison, c'est consentir à la distance, et c'est une invitation au voyage. L'oraison, on pourrait dire, c'est un voyage. Un voyage vers l'autre, dans l'amour et vers l'amour. Aujourd'hui, on fait beaucoup de voyages. On va visiter plein de pays. C'est bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un voyage intérieur qui est encore plus important? Ce voyage intérieur, le véritable voyage, me semble-t-il, est un voyage intérieur qui nous fait changer de regard sur la réalité. C'est aller du connu vers l'inconnu. L'inconnu qui est l'autre, avec un grand A, qui est ce Seigneur, et ma relation avec lui. Ces chemins qui s'ouvrent sont des nouvelles manières de se situer, d'aimer et d'être en relation, nous l'avons dit. L'oraison est un espace distance dans l'Esprit Saint, dans l'amour. Elle est tension vers désir, veille, et en même temps elle est écoute, lieu de l'apprentissage de l'écoute et de l'apprivoisement de soi. Et donc elle suppose la durée, la fidélité, la persévérance, la confiance malgré la nuit. Nous, on est beaucoup quand même dans l'instant, dans la rapidité des choses. Ça qu'on a on zappe, on écoute la radio, on n'aime pas la musique, on change de musique, on est sur un site, on change de site, ça va très vite. Et là, l'oraison nous apprend à durer dans un lieu, sous le regard de Dieu, avec soi. Et des fois, on a envie de fuir. Voilà. Non, justement, ça nous apprend à entrer dans son, quel est le regard. L'autre jour, il y a quelques temps, il y a une dame qui me disait, elle arrivait à l'horizon avec son bonnet, son machin, tout ça. Et, oui, elle faisait comme ça, elle regardait, elle n'osait pas le regarder, enfin, elle n'osait pas se laisser regarder. Et puis là, avec le temps, elle avait son bonnet, son écharpe, donc ça que. Bon. Non pas parce qu'il fait plus chaud, mais parce qu'elle est plus. Voilà, elle est moins inquiète. Donc elle s'est laissée apprivoiser, en quelque sorte. Bon. Elle est le lieu, cette oraison, du devenir en Dieu. On l'a dit, des chemins s'ouvrent dans le cœur. L'amour ouvre des chemins, des nouvelles manières d'agir, de penser, de se positionner, d'être en relation. Qualité de relation, d'être présent à l'autre. Nous l'avons dit, don de soi, non pas en surface, mais don de soi tout entier. Et on se souvient de la phrase de Dieu à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? L'oraison a pour fruit de libérer l'amour, nous libérer de nous-mêmes, pour aimer librement, dans l'oubli de soi, gratuitement. Elle nous aide à nous perdre de vue. C'est ça, se perdre de vue. Je ne peux pas, c'est pour ça que je vous ai marqué, enfin, qu'on a marqué là, est-ce que Dieu, la prière, c'est comme aller à un distributeur automatique, hein, comme la récompense après l'effort, il y a une idée de presque de marchandage. Là, il y a quelque chose de. Quand Dieu semble absent, et que ce temps que nous prenons, qui paraît loin, eh bien, waouh, on y va, on s'offre, on va vers lui, on s'élance à sa suite. On prend le risque de marcher sur les eaux, de marcher dans la nuit, et de se donner dans l'amour. Donnons-nous, quoi. La petite Thérèse, elle dit bien, la fleur dont on enlève les « je t'aime » un peu, la folie, tout ça, il faut enlever toutes tes pétales, il ne faut pas en garder. Et puis, voilà, tac, on va jusqu'au bout. Et là, on trouve la joie en même temps. C'est ça qui est paradoxal, parce qu'on est heureux que quand on pense qu'on est allé jusqu'au bout du don. Sinon, c'est un peu... Bon, on y va petit à petit, hein, c'est un peu en négocie, quoi. Voilà, l'autre, face au tout autre, que je ne peux ni saisir, ni manipuler, je me libère de toutes ces manières égoïstes d'être en relation. Voilà, tu sais, je ne peux pas mettre la main dessus, je ne peux pas faire... Tu sais, on arrive devant le sacrement, et tu sais, on voudrait qu'il réponde tout de suite, et ça ne marche pas. Enfin, vous imaginez, bon, il faut le faire aussi. Des fois, on fait une pancarte, on préfère une manifestation, pas content, on vient camper devant. Voilà, vous allez camper comme des bouchables. Vous allez camper, vous n'êtes pas content. Et vous manifestez, et pourquoi pas. Et en même temps, ben, il entend, il écoute. Et la manière dont il va répondre, on lui laisse de la place pour sa réponse. On lui laisse de la place. Et quelque part, je trouve que c'est les psaumes. Hein. Les psaumes formulent des intentions. Voilà, on dit au Seigneur, puis surtout les psaumes, là, les psaumes imprécatoires, qui sont très, très violents. Voilà, notre agressivité, notre violence, notre sentiment d'injustice aussi, enfin, de soif de justice, on l'exprime. Et puis, on lui laisse de la place pour la réponse. On ne peut pas. Et en même temps, il nous dit, ben, peut-être que, voilà, qu'est-ce que tu peux faire pour aller plus loin. Ce sera peut-être l'occasion, une autre fois, on en parlera peut-être sur les réalités, je ne sais pas. Mais dans le cantique, c'est ça, la bien-aimée, elle est invitée à se lever, à sortir, à le chercher, et à le rejoindre lui sur les monts embaumés. C'est là qu'il est, lui. Et ces monts embaumés, eh bien, c'est cette vie dans l'amour, cette vie dans l'esprit, c'est vers là qu'il l'entraîne. Et là, peut-être, vous pouvez avoir en tête, dans le livre, dans l'évangile de Jean, voilà, ce dialogue de Jésus et les apôtres, « Maître, où demeures-tu ? Venez et vous verrez. » Et ils demeurèrent auprès de lui. C'était environ la 10e heure, la 6e heure. Et donc, tout l'évangile de Jean nous montre le lieu où il demeure. Et il les entraîne à sa suite, vers la source, qui est le Père. Lui, il les entraîne vers le Père, à demeurer dans l'amour. Et c'est plus qu'une simple suite physique. Il les invite à prendre leur origine, leur source, dans l'amour du Père. L'oraison, nous l'avons dit, devenir serviteur de l'amour. Je me dépêche. Alors aussi l'oraison, c'est prendre le risque de l'ennui et de se perdre, de perdre pied pour lui. Il y a une dimension de... Ça, on ne maîtrise plus. Et ça, je trouve que ça fait du bien aussi. Tu sais, on s'en remet. Et on lâche les choses. On n'est pas... Non, waouh. On lâche. On laisse la vie circuler. On fait confiance. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien, vous l'avez compris. Hein. Et ça, il me... Alors, bon, vous l'appuyez comme vous. Le danger, c'est de... Il est vraiment libérateur. Hein, parce qu'on peut enfermer, comme dans... Est-ce que Dieu est... Dans la manière dont j'organise ma vie, est-ce qu'il est dans une étagère? Ça, il est là. Bon. Puis, voilà, je lui regarde, je lui souris. Bon. Où est-ce qu'il est au centre? Et je vis avec lui, en lui, et où il prend toute la place, et je le suis. L'idole ne peut pas me libérer de moi-même, lui me libère de moi-même. L'idole, elle s'intègre dans notre air. L'idole, on la met là, on la met dans un casier, on la met là, on la prend, on la remet là, on la fait là, on la... Donc, si j'entre dans une relation vivante avec lui, c'est un vivant que je suis. Je vais terminer là-dessus. Ce Jésus que nous regardons, c'est le Fils du Dieu vivant. C'est un vivant. Et un vivant, connaît-vous sa vie, sa bouche, c'est vivant. Et aller à l'horizon, c'est aller rencontrer un vivant. On ne va pas rencontrer une statue, on va rencontrer un vivant qui nous entraîne à la vie. Je terminerai sur cette image. C'est en ce sens, le Dieu vivant nous libère de nos Égyptes, nous donne à traverser le désert. Et il y a peut-être que les spécialistes de l'hébreu pourront m'aider. Parce qu'au chapitre 5 du livre de l'Exode, verset 1, c'est Dieu appelle, invite Moïse et Aaron à aller trouver Pharaon pour que le peuple vienne dans le désert. Alors voilà ce qu'il dit, et je vous donnerai une autre traduction que la Bible de Jérusalem. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Alors, Claude Vigier, qui est un juif que vous connaissez, a écrit un ouvrage qui s'appelle « Danser vers l'abîme » et il traduit ce passage « qui célèbre une fête pour moi » par « vous ferez une danse en ronde pour moi dans le désert ». Et donc c'est cette idée qu'on passe de l'esclavage d'Égypte à entrer dans le désert pour aller danser sous le regard de Dieu pour fêter comme un peuple libéré, mais sous le regard de Dieu. Donc c'est bien la danse qui est une invitation à danser. Une invitation à danser. Et d'ailleurs, on se souvient de David qui va danser devant l'arche. Et donc toutes nos articulations un petit peu coincées, nos raideurs, voilà. Réapprenons à danser sous le regard de Dieu. Une danse qui exprime mais la vie hein, qui est en nous, qui avec tous ces aléas, mais qui montre bien que nous ne sommes plus simplement couchés ou assis, mais dans le mauvais sens du terme, mais debout et vivant, capables de célébrer aussi un salut qui est offert et qui nous libère de nous-mêmes pour nous faire entrer dans une dynamique amoureuse. Terminons simplement par cette évocation, cette idée que l'oraison est un lieu de renaissance et de vie nouvelle. C'est un lieu d'enfantement où une vie nous est communiquée. Où une vie, et en ce sens on peut se souvenir du texte de l'évangile que nous avions écouté, sur lequel vous aviez médité la première fois où nous sommes venus sur la Samaritaine, hein, la promesse d'une eau vive. Qui est faite. Ce n'est pas simplement un exercice humain, d'apprentissage même de qualité d'être, c'est un lieu d'enfantement où la vie de Dieu nous est communiquée, où la vie vient circuler en nous. Voilà, on va peut-être s'arrêter pour ce temps sur cette évocation de la vie.